Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous y sommes avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, les abus de pouvoir, les injustices sont devenus une partie prise dans notre quotidien. Ils prennent des diverses formes et des dimensions différentes et ça s'exerce à toute personne qui abuse de toute autorité à un État mal gouverné. Donc le pouvoir reste le facteur commun qui encourage, aveugle, incite les malhonnêtes à profiter d'affaiblir le poids de la justice qui devient réellement inquiétant. Aujourd'hui, le vendredi 19 novembre 2010, s'annonce l'ouverture de deux sommets. Donc, il y a le sommet de l'Alliance militaire de l'OTAN à Lisbonne, au Portugal. Objectif principal, maintenir et augmenter les troupes militaires en Afghanistan. Au même temps, ici chez nous, à Montréal, c'est l'ouverture du sommet Échec à la guerre. Il sera à 19h30. Donc, une voix populaire qui demande au gouvernement canadien de retirer nos troupes militaires de l'Afghanistan. Nous aurons l'occasion de demander à notre invité d'aujourd'hui de nous éclairer sur cette double coïncidence. Donc, l'histoire nous a enseigné que les guerres et les agressions du peuple n'amènent nulle part, sinon à la destruction de l'homme lui-même. Voilà pourquoi nous sommes étonnés d'entendre notre gouvernement canadien de dire le contraire. Le collectif Échec à la guerre, porte-parole de la majorité du peuple québécois, dénonce et propose un changement de cap en toute urgence, alors que le gouvernement fait la sourde oreille et lance ses voiles en plein air à la recherche de nouvelles conquêtes politiques. Finalement, sommes-nous prêts d'adhérer à cette pensée et devenir un jour responsable seulement pour satisfaire nos voisins? Ou bien nous devrons continuer à refuser fermement et dénoncer l'abus de nos autorités qui, bref, détient la force de nous les citoyens. Pour nous rejoindre, chers auditrices et auditeurs, après l'émission, veuillez nous appeler au 514-273-4302, je répète le numéro, donc 514-273-4302, quand vous pouvez nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Donc info@commercialmage-québec.com. Sur le plateau avec moi ce matin, Monsieur Daniel Gingras, c'est un spécialiste en éducation, il est membre du collectif Échec à la guerre, il est membre des artistes pour la paix. Et j'ai aussi à côté de moi mon collègue Roland Cazès qui nous accompagne le long de cette émission. Voilà, donc restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Nous reviendrons avec vous après notre thème musical.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. « C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la une.
Donc, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. D'abord, j'aimerais bien commencer par Monsieur Roland Cazès. On a entendu comme quoi tu as vu un incident dernièrement. C'était quoi?
Ben, c'était un ACV. Ah. Moi, j'ai jamais été malade de ma vie, jamais pris un aspirine de ma vie. Mais hélas, ça arrive. Et il paraît que ça arrive de plus en plus, même des jeunes de 30 ans, 35 ans qui peuvent faire un ACV comme ça tout d'un coup, là, puis se retrouver dans un hôpital et handicapés bien des fois. J'ai été chanceux.
C'était arrivé en plein milieu de la ville?
Ah oui, je faisais mes petites commissions tranquilles. Au moment où je suis arrivé dans la voiture, j'ai dit à mon neveu, là, vite, à l'hôpital, là, je sens plus mon bras, je sens plus ma jambe, ma joue commence à être paralysée.
C'était
le côté droit. Chanceux. Oui. Chanceux que j'étais pas seul et isolé chez moi.
Là, aujourd'hui, je te vois devant moi avec les quatre...
Je suis en pleine forme parce que, écoutez, j'ai une bonne alimentation, je fais attention, j'ai des défauts, je fume la cigarette et je bois du café expresso. Mais enfin, il faut bien...
Mais Roland, ce qui est important pour nous, là, aujourd'hui, j'aimerais bien... Tu as voulu dire un grand merci pour le service médical d'hôpital. Et pourquoi?
Ah ben, voilà. Alors, on m'a donc transporté à l'hôpital de Verdun. De Verdun, on m'a transféré au CHUM. Sur Notre-Dame, en face du parc La Fontaine. Oui. Je vais vous dire une chose, un service comme j'ai jamais vu, parce que j'ai jamais été dans un hôpital, pour bien dire.
Est-ce que vous avez déjà critiqué déjà le service santé?
Non, j'entends des critiques, mais moi je prétends que quand c'est bon, quand c'est bien fait, quand il y a un bon travail, il faut le dire aussi.
Et vous êtes aujourd'hui, vous voulez témoigner vraiment
de oui.
Un excellent service.
Le cinquième étage, je les félicite, et puis franchement, j'ai été le petit roi dans le coin. Croyez-moi, j'étais un petit roi.
Est-ce que vous étiez le seul ou tout le monde s'est traité à la même...
Tout le monde avait du service. C'est bien simple. Les filles courent dans le couloir. Il y a une énergie, il y a une ruche. C'est terrible. Personnes-là donnent un service. Moi, je me rappelle, je cite Marianne, je cite Bachir, Katia, enfin, toutes. C'est de la première à la dernière, des personnes qui font le ménage aux personnes qui prennent soin des patients et puis qui s'occupent des patients, docteur Deneau aussi, naturellement. Mais ce que je veux dire, un service inimaginable. Pense que la difficulté, c'est de rentrer dans les hôpitaux, d'être accepté. Une fois qu'on est accepté, on a un service terrible par ces personnes. Elles sont vraiment dévouées. Et elles aiment leur métier, ça se voit.
Et vous voulez vraiment aujourd'hui dire merci à ces gens-là?
Je veux les remercier, leur rendre hommage.
Monsieur Daniel Gingras, êtes-vous d'accord avec ce qu'il vient de dire?
Ben, moi, je suis entièrement d'accord avec le fait que, effectivement, à partir du moment où on est entré à l'hôpital, ça va bien. La difficulté, c'est d'entrer à l'hôpital. D'une part, il y a énormément de gens qui n'ont pas de médecin de famille.
Ouais.
Ça, c'est déjà un problème, donc ça peut retarder. Ensuite de ça, un autre des problèmes, c'est le fait d'avoir une... les cliniques privées versus les, oui, les hôpitaux, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui se dirige vers le privé et qui rend les tâches plus difficiles au monde à l'hôpital. Il y a même, c'est une ou deux hôpitaux que les infirmières, à un moment donné, disaient on est séquestrés. On sait quand on rentre, mais on ne sait plus quand on sort de l'hôpital.
Oui.
Et ça, ça peut parfois engendrer des erreurs ou des difficultés parce qu'il y a de la fatigue. Mais effectivement, je suis d'accord avec Roland quand il parle que dans les hôpitaux, on est bien traité. Moi, j'ai connu des gens qui ont vécu un cancer et effectivement, les soins étaient excellents. J'ai accompagné des gens comme aidant naturel aussi, une personne qui s'est suicidée, qui s'est retrouvée dans un milieu psychiatrique. Et ce fut exactement la même chose. Le service était impeccable. Le travail qui était fait par eux et le fait de vouloir les aider. Mais je pense qu'on pourrait améliorer si au lieu d'avoir une médecine à deux vitesses,
oui,
on avait une médecine où l'ensemble des ressources seraient orientées dans le but de favoriser l'efficience, de rendre plus efficient,
oui,
les hôpitaux qu'on a. Comme par exemple de faire en sorte que plutôt que de bâtir deux hôpitaux, qu'on en bâtisse une, mais qu'on ouvre tous les hôpitaux, qu'on rende efficients les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui ont des étages qui sont fermés,
oui, oui, oui,
alors que ces étages-là pourraient être ouverts, ou bien que les gens qui rentrent ne peuvent pas être opérés, mais par contre, s'ils vont au privé, la clinique va louer la oui, salle d'opération.
Oui.
Ça, je trouve que c'est un peu des aberrations. Là, mais,
oui, ça veut dire pourquoi ils ont fermé des étages et des lits? C'est parce que dans le temps, il y avait des gens syndiqués et chaque hôpital marchait d'après le nombre de lits. Donc, les salaires étaient fixés en proportion du nombre de lits. En coupant les lits, automatiquement, on met les gens sur les civières. Donc, nous n'avons pas de lits. Donc, nous évaluons la valeur des employés d'après le nombre de lits. Alors, un hôpital de 200 lits qui devient du jour au lendemain 100 lits, l'échelle des salaires devient différente.
Donc,
voilà pourquoi.
Monsieur Cazel, ça veut dire que tu es en train de dire qu'on n'a rien reproché au personnel.
Non. Le personnel est impeccable.
Tout à fait.
Il faut le dire, il faut dire un grand merci au personnel de santé ici au Québec.
Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces personnels-là, ce personnel, ces infirmières, ces infirmiers ont des familles. Et ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne sont pas présents. Ils ont des enfants, ils ont un mari, ils ont une vie aussi. Alors ça nuit à leur cercle familial. Et bien des fois, on se retrouve avec des divorces, avec des dépressions de ces personnes. Et il faut se mettre à leur place et puis il faut vraiment leur rendre hommage.
Ah, tout à fait.
J'ai un très grand respect.
Un travail impeccable.
Ah oui, j'ai un très grand respect pour ce personnel.
Donc revenons avec Daniel Gingras. Vous êtes quand même spécialiste en éducation. On a eu l'occasion d'avoir fait une entrevue avec vous. Vous avez fait des études au troisième cycle en éducation, si ma mémoire est bonne. Et vous êtes actif membre à Échec à la guerre et en même temps membre aussi aux Artistes pour la paix. Il y a des auditeurs et auditrices qui ne savent pas trop. Voulez-vous dire deux mots sur les Artistes de la paix, quelles sont les activités qu'ils ont et puis...
Ce qui me fait que j'ai joint les Artistes pour la paix,
voilà,
c'est le côté que je suis aussi écrivain et aussi poète. Et c'est par cet art-là.
Non, mais leur démarche.
Mais en ce qui a trait au niveau des Artistes pour la paix, c'est un organisme qui a été fondé il y a 27 ans. C'était initié, il y avait Harry Belafonte au départ aux États-Unis dans la période de la guerre. Qui avait parti Artistes pour la paix, mais en anglais, aux États-Unis.
Oui.
Et ça l'a incité des gens ici, dont les premiers porte-parole furent Gilles Vigneault.
De reprendre le flambeau, vous voulez dire, oui.
De reprendre l'organisme ici et de l'adapter à ce qu'on est ici au Québec.
Tout à fait, oui.
Et il y a une multitude d'artistes depuis 25 ans. Disons qu'on croit qu'au niveau des Artistes pour la paix, personnellement, moi, ce qui m'a amené à devenir Artiste pour la paix, c'est que premièrement, c'est beaucoup plus difficile De devenir un artiste ou de développer son talent,
oui.
Mais c'est beaucoup plus gratifiant et c'est beaucoup plus et c'est beaucoup plus pacificateur quand on a besoin de communiquer quelque chose. Que ce soit par écrit, par dessin, par le mouvement, par la sculpture, c'est beaucoup plus agréable. Et en même temps, le fait de pacifier les gens, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à écrire que d'apprendre à tirer une carabine.
Mais c'est
et pour moi, si c'est plus difficile, c'est donc plus intéressant à ce niveau-là.
Oui,
et les artistes pour la paix, depuis 25 ans, il y a eu dans la période de la guerre au Vietnam,
oui.
Qui se sont impliqués contre la guerre au Vietnam, ils se sont impliqués contre l'ensemble des guerres, ils suivent à peu près tous les dossiers des guerres qui se produisent actuellement au Québec, dans le monde, c'est-à-dire pas au Québec, parce qu'on n'a pas de guerre, mais on fait de la guerre à la criminalité ou...
Tout à fait, oui.
Mais pas, y a pas de guerre comme telle, mais on fait la promotion de la paix, parce que je pense, et les artistes pour la paix, je pense qu'ils sont aussi d'accord avec moi, dans ce sens-là, c'est que par les arts, on a beaucoup plus de chances de se rencontrer et d'être convivial les uns par rapport aux autres parce qu'on partage.
Mais vous parlez, c'est-à-dire l'artiste et la paix, est-ce que vous voulez dire que le discours est échoué et les artistes vont aller au-delà de langage pour essayer de trouver ou sensibiliser les gens à la requête de la paix? C'est-à-dire l'artiste devient énormément un élément nouveau où le discours ne fonctionne plus. Ça veut dire on va aller à un niveau plus haut dans ce qui est l'artiste pour par exemple à travers la poésie, à travers l'écriture, à travers la musique, à travers la chanson pour aller laisser des mots comme ça pour sensibiliser les gens. Est-ce que
tout à fait que quand on prend la communication, le besoin de communiquer, c'est le besoin d'être avec les autres.
C'est ça.
On a des pensées, on a des émotions, on les partage avec les autres, on le partage par le biais d'un médium qui est l'art qu'on pratique.
Oui.
Et quand on met ça en commun, quand on regarde depuis le début de l'humanité, les hommes primitifs faisaient des dessins dans des cavernes, ils chantaient, ils jouaient du tam-tam, du tambour. Et ça se continue continuellement. Et quand on est dans une attitude festive ou de culture, c'est beaucoup plus agréable de se retrouver ensemble, puis de danser, puis de chanter, puis de se taper dessus à coups de poing, puis à coups de fusil ou à coups de couteau. Là.
On va juste faire une petite pause musicale et on revient et on rentre directement dans notre sujet et qui est surtout aujourd'hui, on sait qu'il y a le sommet de l'échec à la guerre. Donc on va reprendre notre sujet après la pause musicale.
Dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie. Et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie. Et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. fragile et je n'ai plus froid. La terre est mon amie et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie et souvent je dors dessus et je m'ennuie de mon pays.
Donc, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, c'est aujourd'hui la tenue du sommet du collectif Échec à la guerre, ici à Montréal, à 19h30, à l'Université du Québec à Montréal, c'est-à-dire l'UQAM. Donc, le sommet du collectif Échec à la guerre, c'est une voix populaire très bien organisée et maîtrisée, qui se lève courageuse, intelligente, combative, déterminée pour dénoncer la présence militaire canadienne sur le sol afghan. Donc, M. Daniel Gingras, le collectif a travaillé beaucoup pour attendre cette journée marquante. Pensez-vous réellement que de telles initiations portera des fruits alors qu'Ottawa a déjà annoncé le maintien de ses troupes jusqu'à 2014?
Personnellement, oui, je crois que c'est important que la population, les citoyens se prononcent parce que dans l'ensemble au Québec, on est en désaccord avec la guerre, on est en désaccord avec le financement que l'argent qui utilise l'argent des contribuables dans le but de financer des compagnies d'armement, de financer la guerre, alors que les réels besoins, c'est des besoins d'éducation, c'est des besoins de santé, c'est des besoins de nourrir les gens, c'est des besoins de loger les gens. Il y a pas une guerre qui ne fait pas de traumatisme. Je lisais hier le sénateur qui était au Rwanda, là, je me rappelle pas son nom, là, l'ancien militaire là, qui est allé au Rwanda, qui disait on n'est même pas capable encore de mesurer le traumatisme des militaires qui reviennent, mais s'ils sont pas capables de mesurer le traumatisme des militaires qui reviennent, que peut-on dire des civils qui sont pris en otage dans ces conflits-là et qui sont soit tués, violés, blessés, et les familles de ces militaires-là et les familles de tous ces gens-là, on est tous des êtres humains.
Sans parler de citoyens afghans, qui c'est le civil, les citoyens civils, c'est l'impact de la guerre sur les citoyens. Là, vous parlez de tout ce qui est canadien, là, côté canadien.
Oui, je parle du côté canadien, mais le fait de parler d'ici parce que le Québec se dissocie du Canada.
Tout à fait.
Et pas la même mentalité. On a une mentalité ici pacifique parce qu'on est le résultat d'un conflit qu'il y a eu entre les Français et les Anglais à un moment donné. Donc, on a été comme pris dans un changement de pouvoir où nous, on était tout simplement les gens qui étaient en train de cultiver puis faire nos activités quotidiennes.
Ouais.
Et on le faisait de façon pacifique et de façon quotidienne. On faisait ce qu'on avait à faire.
Un peu plus
pire, un moment donné, quand on regarde en 2001, lorsqu'est arrivé les incidents au Centre mondial du commerce, quand il est arrivé ces éléments-là où Bush et Ben Laden ont créé le conflit qui se produit actuellement,
oui.
À ce moment-là, le Canada a pris position Avec Paul Martin, ils ont commencé à changer les casques bleus pour des militaires. Oui. Avec Paul Martin, le militarisme, à ce moment-là, a pris un engagement. Jean Chrétien avait quand même reculé à cause d'échec à la guerre. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2003, si je me trompe pas, il était supposé envoyer des bateaux et des troupes en Afghanistan. Et ça l'a été stoppé parce qu'il y a eu une marche où il y a eu 250 000 personnes. Et ça, c'est le pouvoir des citoyens. Oui. De dire, nous, on réagit à ça. Et comme ces gens-là, c'est des élus, ben s'ils n'écoutent pas les citoyens, ils savent qu'ils peuvent perdre leur job.
Je m'excuse, je me pose une question. Comment ça se fait que M. Ignatieff sort de la ligne de parti, du Parti libéral, que M. Chrétien a décidé qu'en telle date, on retirait les troupes, et que M. Ignatieff se range du côté de M. Harper? Mais est-ce qu'il joue la girouette ou est-ce que... Je ne comprends pas. Est-ce que pourquoi il ne suit pas la ligne du Parti libéral qui avait dit, écoutez, nous nous retirons en 2011 et puis bonjour, c'est fini, qu'on laisse ces gens-là s'arranger entre eux.
2010, oui.
Il y a eu dans l'histoire, pour répondre à votre question, il y a eu dans l'histoire trois actions ou trois votes à un moment donné où le Québec a, le Bloc québécois a fait des propositions de rapatrier les soldats. Et à chaque fois, les motions ont été défaites, soit par le Parti libéral, soit par le NPD, qui se sont associés avec les conservateurs pour des considérations économiques ou politiques. Et à ce moment-là, lorsqu'on est allé avec le Centre de ressources pour la non-violence, les citoyens pour un ministère de la paix, on est allé à Hamilton, on a justement intervenu dans cet effet-là à dire à un moment donné, nous ce qu'on veut c'est des citoyens pour un ministère de la paix, on veut pas avoir un ministère de la guerre, on veut avoir un ministère de la paix. Oui. Et on pourrait transformer les soldats en intervenants humanitaires qui iraient davantage aider les populations, ce qui a amélioré l'image du Canada, parce que le Canada a perdu au fil des ans, surtout depuis le conflit, parce que je considère que Harper actuellement prend un peu la suite de ce que Bush a commencé. Oui. Et comme le Canada est un pays qui est producteur d'armement, lui, il voit aux intentions de ces 3 millions de personnes qui travaillent là. Puis les autres, ben parfois, ils vont dire oui pour un. Et si tous les partis se mettent ensemble, puis qu'il y allait dans un contexte de dire, nous, ce qu'on veut, c'est des citoyens pour un ministère de la paix. On veut que nos militaires ne soient pas des militaires, mais soient des intervenants humanitaires. Et que ce soit le NPD, que ce soit le Bloc québécois, que ce soit le Parti libéral, se consolidaient leur position à cet effet-là, ils pourraient contrecarrer les objectifs que Harper peut avoir de vouloir
développer il y a quelque chose qui m'intrigue. On veut donner des cours à des gens de guerre. On veut leur apprendre à tuer.
On va juste faire une annonce publicitaire et on revient à notre sujet.
On veut apprendre à tuer.
Parrainage Civique Montréal, organisme qui favorise l'intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle, a un urgent besoin d'hommes bénévoles de plus de 18 ans pour vivre une riche amitié avec de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Une rencontre mensuelle, seulement 5 heures par mois de votre temps pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Devenez bénévole à Parrainage Civique Montréal. 514-843-8813, 843-8813 ou visitez le www.parrainagemontréal.org.
L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Arc's Notebook, avec Stan Asher et copilote Davin Ryle. Votre départ vous attend chaque samedi matin à destination de la scène locale de théâtre anglais avec escale au film, au festival culturel. Le calendrier des activités culturelles et également les critiques de ce qui se joue sur les scènes locales. Tout le monde à bord les samedis de 11h30 à 12h30 avec Arc's Notebook.
Ici Yves Lambert. Le vendredi 19 novembre, je serai au Club Soda en compagnie de Pascal Picard Ben, les Lost Finger, Papa Groove, Antoine Graton, So Cold et plusieurs autres pour la soirée bénéfice Jeunes Musiciens du Monde. Bien disponible sur jeunesmusiciensdumonde.org, une présentation de la Capitale Groupe Financier.
Radio Centre-Ville. Depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc, chers auditeurs, on va reprendre avec M. Roland Cazès. Vous disiez...
Oui, j'étais en train de dire, on veut apprendre ces gens-là à tuer. Mais essayons de réfléchir. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt former leurs enfants, les forcer à envoyer les enfants dans les écoles, envoyer plutôt des collaborateurs qui vont essayer de les aider plutôt que des soldats? Pourquoi envoyer des soldats? On veut faire des ingénieurs, des docteurs, des infirmières avec toute cette population, de façon à ce qu'ils se suffisent à eux-mêmes.
Mais des soldats pour ramener l'ordre.
Les soldats pour ramener l'ordre. Voyons donc, vous pensez que ce sont des ignorants, ces gens-là? Est-ce que, demandez donc aux Anglais qui ont perdu les culottes, là, dans le temps où ils ont essayé en Afghanistan. Demandez aux Russes voir ce qu'ils ont reçu comme déculotté, crime en Afghanistan. Demandez donc aux Américains et aux Canadiens, là, la déculottée qu'ils ont eue. On est en train de fabriquer des orphelins au Canada ou au Québec et partout par ces soldats qui, en définitive, se font tuer dans des attaques. Mais ces gens là une formation de soldats, inquiétez-vous pas, ils sont mieux formés depuis Genghis Khan, ce sont les meilleurs soldats qui puissent exister, même lui Genghis Khan a eu des problèmes avec eux. Ce que je veux essayer de dire, n'essayons pas de former des soldats, des guerriers, des gens qui vont faire la guerre, qui vont tuer, mais formant des gens civilisés, des gens envoyant des collaborateurs pour les aider, des professeurs, des ci, des ça, là ça marcherait et là on serait pas attaqué par personne. Tandis que si vous laissez des soldats, ben ces soldats vont être attaqués encore par des terroristes, par des cibles.
Monsieur Jeannette Dingra, pensez-vous vraiment que tout cet engagement, tout cet argent et tout, c'est pour finalement la guerre d'Albert? Elle va être perdue à la fin. Et puis...
Si on regarde juste l'histoire des guerres, depuis le début de l'humanité qu'il y a eu des guerres, oui. Depuis le début de l'humanité, tout ce qu'une guerre a réussi à faire, c'est de détruire. Et il n'y a rien de constructif dans une guerre. Oui. L'idée de combattre la violence, parce qu'une guerre, c'est toujours relatif à un phénomène de violence, et dans chaque être humain, il y a une façon de percevoir la vie, il oui. y a une façon de vivre ses émotions, puis il oui. y a un besoin de survivre, puis de survivre et de poursuivre la vie aussi, de promouvoir la oui. vie. Et ça, quand on y va. C'est pour ça que je partage l'opinion de monsieur de Roland. Ouais. Je vais dire Roland, si vous me permettez.
Oh, oui, oui.
Que je partage son opinion. Parce que lorsque on apprend aux gens à vivre dans un mécanisme de défense, je le sais, j'ai été dans le 22e Royal Régiment, 4e Bataillon, dans la réserve. Ouais. Et on m'apprenait quotidiennement à dire, tu vas être attaqué. Et à ce moment-là, tu développes une paranoïa qui fait qu'en quelque part, t'es toujours prête à sauter sur celui qui va vouloir s'opposer à ce que tu crois.
Oui.
Et pour pouvoir contrôler l'ensemble de tout ça, ils vont nommer des gens qui sont plus hauts, qui eux prennent les décisions, oui. et toi, tu deviens un exécutant quand t'es sur le terrain.
Oui.
Et t'as juste la capacité de faire ton travail en réfléchissant dans le quotidien, au moment présent, oui. à réagir. Mais à quoi ça peut être utile de monter les uns contre les autres? On est tous des êtres humains. Ça, c'est le dénominateur commun qu'on a. Et comme dénominateur commun, à ce moment-là, la coopération internationale est davantage productive.
Tout à fait, oui.
Parce qu'au lieu d'aller... C'est comme à un moment donné, j'ai été dans une fête où on était 90 nationalités et dans les 90 nationalités, il y avait 90 mais typiques à chacun de ces pays-là.
Oui.
Ça a été beaucoup plus agréable et on a beaucoup
plus, enrichissant,
beaucoup
tu veux
plus dire. De plaisir oui. que si on avait été 90 à nationalités à se taper dessus.
C'est évident, la coopération, c'est la solution à tous les problèmes de certains pays qui sont avec justement une division en eux. C'est que la coopération peut faire justement une espèce de coordination entre toutes les tribus et autres. On sait que c'est pas mal tribal dans ces coins-là. De ce fait, ces gens-là peuvent s'entendre avec avec la coopération, le développement et l'instruction. L'instruction qui est très importante pour les enfants, afin que les enfants pensent autrement que ce que les aînés pensent.
Monsieur Gingras, c'est vrai que vous étiez en train de dire à peu près, c'est comme les esprits sont forgés à détruire et tout. On prépare les soldats à détruire et tout. Mais vous êtes spécialiste en éducation et tout, et on vit présentement, on aperçoit comme quoi il y a qu'on appelle ça
un recrutement
des enfants. Et moi, j'étais surpris d'entendre même au niveau, ça commence au niveau de maternelle et jusqu'au niveau universitaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Regardez, la meilleure façon de procéder, c'est appauvrir une population, créer un besoin de se nourrir, créer un besoin de survivre, et à ce moment-là, les gens vont être prête à faire presque n'importe quoi pour être capable de s'en sortir. Ouais. Et à ce moment-là, quand ça se retrouve en deux pays, on appelle ça une guerre. Puis si ça se retrouve dans un même pays, on va appeler ça de la criminalité. Ouais. Et dans les deux cas, c'est tous les deux des éléments de réponse d'une violence à une autre violence. Ouais. Qui est négatif dans mon esprit. Et le fait de pouvoir amener les gens par le biais de l'éducation, à être capable de pouvoir avoir une façon de percevoir la vie dans un sens où on est de la même race, dans un sens indistinctement. La Charte des Nations Unies, l'article 1 dit tout le monde est égal en droit et, bon, le droit de parole, le droit de penser, le droit de s'exprimer, le droit de la religion, le droit de... Bon, il y a différents types de droits, sauf que les Nations Unies disent cette charte-là est une charte idéale auquel on aspire. Mais si c'est ça qui est l'idéal, pourquoi ne pas bâtir les lois en fonction de ça? Parce qu'entre-temps, ça ouvre le prétexte à tous les abus. Il n'y a pas eu autant de non-respect des droits humains que depuis la guerre, depuis 2001. Oui. C'est énorme. Même qu'on prenne à Guantanamo, qu'on prenne au niveau de l'Afghanistan, qu'on prenne au Canada, qu'on prenne au Québec, il y a des non-respect des droits humains. Ils meurent, vous parliez tantôt de l'Afghanistan, qu'il y a beaucoup de monde qui meurt, mais au Mexique, ils meurent autant de monde pour la criminalité.
Voilà.
Puis tout ça, c'est pour enrichir des gens qui, en quelque part, font font le trafic des armes ou vendent des armes, dépendamment de quel...
Mais je répète la question et je vous laisse. Orienter des enfants à partir de la maternelle. Et ça se comprend, et c'est le gouvernement qui le fait, c'est-à-dire par le billet du gouvernement qui donne la permission aux militaires d'aller faire des recrutements et faire des
voulez recruter vraiment pour faire de la violence, pourquoi ne vont-ils pas recruter dans les prisons des prisonniers qui ont tué et tout ce qui s'ensuit pour les envoyer
Daniel, pourquoi Daniel est un spécialiste en éducation et comment on peut orienter un enfant vers la voie militaire? Est-ce que pensez-vous pas, c'est pas un crime là parce que
c'est un crime. C'est un crime contre la famille, c'est un crime contre la personne, c'est un crime contre la famille, puis c'est un crime contre l'humanité.
Le fait
d'apprendre à des gens à devenir des machines à tuer, c'est pas humain. On n'est pas venu sur la planète pour s'entretuer les uns par rapport aux autres. Et quand on regarde le président d'Amnesty International, qui disait la meilleure manière de combattre le crime, la criminalité ou le terrorisme, c'est en luttant contre la pauvreté. Mais en luttant contre la pauvreté, on a un très bel exemple au Québec actuellement. On vous parlait du système de santé, comment on pourrait l'améliorer tantôt. Oui. Mais on a un très bel exemple actuellement au Québec avec tout ce qui sort d'un peu partout actuellement de corruption. Où ce que c'est qu'il y a 36% approximativement des frais, des ressources que les contribuables payent de leur impôt, de leur travail, qui servent actuellement à enrichir des gens. Et il y a 36% de cet argent-là qui pourrait être utilisé dans l'éducation, qui pourrait être utilisé pour l'environnement, qui pourrait être utilisé pour la santé. Et quand on ramène le fait de dire on maintient des gens dans la pauvreté, on va les emmener dans un organisme militaire, on va les former pour devenir des bons soldats, pour être capable de... Ça va servir à qui? Sinon à l'entreprise militaire. Moi, je, personnellement, dans mon esprit à moi, j'abolirais les armes. Ça, c'est mon esprit à moi.
Ça, c'est l'idéalisme.
Oui, mais ça, c'est l'idéalisme. Mais le fait d'enrichir ces compagnies-là, durant tout le conflit, si on calculait le profit que les entreprises militaires ont eu, ont fait, et qui ont mis l'économie des États-Unis à terre, qui mettent l'économie du Québec et du Canada actuellement, parce que il y a un montant, je vais vous donner dans le dépliant des artistes pour la paix, les budgets militaires engloutissent chaque année l'équivalent de $220 par être humain, alors qu'il en coûterait $4 pour nourrir tout le monde sur la planète. On élimine une partie du budget, on le déplace, on pourrait permettre à des gens d'aller à l'université, aller jusqu'à l'université, jusqu'au bac, défrayé par l'État, parce que j'aime pas le mot gratuité, parce que c'est pas gratuit, c'est défrayé par l'État, et les gens pourraient aller jusqu'au bac, ou encore on pourrait soigner, puis on pourrait nourrir deux fois la population actuelle qu'on a. Donc, l'argent qui est englouti dans cette industrie qui est dans l'industrie de la guerre et de la destruction, pour moi, est un mauvais placement. Et quand on est peu nombreux à l'exprimer, je pense que tout le monde en est conscient. Il n'y a personne qui est en accord avec ça. Sauf qu'il faut, à un moment donné, faire du ménage, de dire, nous, ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. On veut vivre en paix. On veut vivre pour avoir de la joie et du bonheur. Puis pour ce faire, il faut qu'on soit capable de pouvoir aller vers les autres en étant plus positif que dans le but de répondre à des pressions qui sont faites, qui sont là pour nous diviser, parce que ça leur permet de continuer à régner.
Mais Roland, j'ai voulu te poser la question aussi, suivant toujours peut-être dans le même sens. Le gouvernement aussi, s'il y a un engagement militaire et tout, c'est pour aller à la recherche de ressources, de richesses aussi.
C'est drôle, ils ont construit en Afghanistan ou en Irak ou je ne sais où, là, une espèce de village américain, mais ils ont trouvé aussi des mines, là, vous savez. Il y a des richesses. N'oubliez pas qu'un satellite qui tourne autour de la Terre peut détecter toutes les richesses du sous-sol. Et alors, d'un coup, on va déclarer la guerre, on va les mettre l'ordre dans ce pays parce qu'il y a telle richesse. Rappelez-vous que le Vietnam, les Américains l'avaient repris dans le temps de Mendès France, en France, là, celui qui avait remplacé Coty. Et il avait repris le Vietnam. Pourquoi ça l'intéressait, cette Indochine qui s'appelle maintenant le Vietnam? C'est parce qu'il y avait de l'uranium et que les Américains avaient détecté des richesses d'uranium. Ce que j'essaye de vous dire, dans un certain sens, les guerres sont juste un masque de fumée. C'est juste pour vous faire croire qu'ils sont en train de mettre de l'ordre, là. Alors qu'ils sont là pour occuper l'espace et pour exploiter l'espace.
Exactement.
Tout à fait.
Et n'oubliez pas ça.
On va juste reprendre une pause musicale et on va revenir de notre sujet.
Mais honnêtement, rien ne change.
Rebonjour, chère auditrice, chère auditeur. Donc, je vais vous faire rappeler que aujourd'hui, le vendredi 19 novembre à 19h30, il y aura lieu le sommet collectif Échec à la guerre. Et ça sera, ça va commencer par une conférence d'ouverture titrée par l'impérialisme humanitaire au salle SH 2800 pavillon Sherbrooke. Donc, je reprends avec M. Daniel Gingras. Donc, on disait que les puissants et les moins puissants, si vous me permettez, est-ce que vraiment, si on parle les moins puissants, c'est la population qui est prise en otage, c'est quelque part?
Actuellement, c'est ce que je crois. Actuellement, c'est ce que je crois. Il y a des décisions qui sont prises ailleurs. Il y en a qui vont parler des maîtres du monde, ceux qui veulent les maîtres du monde. Il y a des compagnies de pétrole, il y a des compagnies d'automobiles, il y a des compagnies pharmaceutiques, il y a des compagnies qui ont d'exploitation des richesses naturelles. On le voit avec le gaz de Charles ou le gaz de schiste ici. On le voit avec l'uranium, on le voit avec le fer, par rapport au Québec qui est rempli de fer. Et dans le monde, c'est des richesses naturelles. La planète est une richesse naturelle en elle-même par rapport à l'eau, par rapport à l'air et ses ressources. Et actuellement, ces entreprises-là qui possèdent, qui vont exploiter cette richesse-là et qui en veulent davantage, utilisent la division et les conflits dans le but d'être capable de s'emparer de ça. Et les citoyens, à partir du moment où ils ont mis un gouvernement en place, mais après ça, ils n'ont plus le droit de regard. Voilà. Et puis là, il faut qu'ils attendent la prochaine élection, mais pendant ce temps-là, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent.
C'est les lobbyistes qui décident.
C'est ça.
Vous avez élu des gens et c'est les lobbyistes qui décident. Regardez, souvenez-vous de Duplessis qui vendait notre, le fer de cette île à 3 cents la tonne. Eh bien, on fait pareil avec le gaz de schiste. Ce que je veux essayer d'expliquer, il y a des choses que le peuple devrait exiger. Ces petits rois que nous élisons à chaque élection, nous devrions taxer les caisses électorales de façon à ce que le fisc puisse avoir un œil sur ces caisses et qu'il paye des taxes. Pourquoi ne paye-t-il pas des taxes pour se faire élire? De quel droit?
Mais même le système électoral actuellement est non respectueux de la Charte des droits humains parce que tout le monde ne peut pas se présenter. Jean Cournoyer disait à un moment donné, pour pouvoir se présenter en politique, il faut être millionnaire.
Ou la corruption. Ou vous recevez des sommes d'argent, des enveloppes, ça, à droite, à gauche.
Et ça ne permet pas à tous de pouvoir se présenter dans un contexte électoral. Et là, ça va ouvrir des portes à des caisses électorales, puis ceux qui en possèdent, à ce moment-là, vont fournir en donnant des prête-noms, en donnant des montants d'argent, en donnant... Moi, j'ai vu quelqu'un qui s'est fait élire à un moment donné, qui invitait les gens, qui leur donnait des billets pour le cirque, remplissait la chose du cirque. Comment il a fait pour payer tout ça? À partir de quel argent qu'il a pris ça?
Dans le temps les frigidaires qu'on livrait et ainsi de suite. Moi, ce que je veux partir d'un principe, devrait-on taxer les caisses électorales de ces gens qui se présentent et qui nous ignorent après? Alors, taxons-les tout de suite afin de savoir d'où viennent les sommes d'argent et afin qu'ils soient obligés de déclarer, que le fisc puisse faire enquête et qu'il puisse les condamner à payer des amendes comme tout le monde s'ils trafiquent de l'argent noir.
Ouais, tu es en train de le dire, c'est-à-dire que... Oui, Daniel?
Oui, ben c'est ça. Il y a un comité, il y a une surveillance au Québec. C'est 3 000 $ par citoyen qui peuvent contribuer. Il y a même un placement qui peut être fait parce que quelqu'un qui contribue dans un parti politique va contribuer jusqu'à 3 000 et 75% de sa contribution lui revient en impôt. Ce que je pense que même dans les placements bancaires, ça rapporte pas autant à ce niveau-là. Mais... qu'il y ait une surveillance de façon à éliminer ces passe-droits-là et que ce soit par une mesure
et
de taxe ou d'une surveillance.
Et oublions le directeur des élections, c'est des pattes molles. Ils réagissent jamais ou alors, oh, ben, ils ont le droit, oh, c'est passé date, oh, c'est l'emmanchure, c'est une grosse emmanchure. Faisons payer une taxe sur toutes les sommes d'argent qu'ils reçoivent dans les partis politiques électorales, dans les caisses électorales, afin que s'il y en a un qui fait avec de l'argent noir, que l'on puisse lui donner des amendes et le déclarer publiquement sur les journaux afin qu'on sache que c'est des trafiquants d'argent noir.
Puis moi, il y a une dimension qui est le respect du contrat social. C'est-à-dire que quand un gouvernement décide de mettre en vigueur des applications politiques, des politiques quelconques, oui. qu'ils s'assurent que ces politiques-là rejoignent les opinions des citoyens, oui. et si ça les rejoint pas, ben à ce moment-là, que les citoyens, le pouvoir citoyen, oui. soit capable de leur dire, ben vous répondez plus à nos besoins, on vous a nommé comme représentant pour gérer les biens publics de l'ensemble du peuple.
Vous ne respectez plus l'opinion publique, générale.
Ben, c'est ça. C'est l'argent qu'on vous donne, ça sert normalement pour l'administration de l'État, oui. pour l'éducation, pour la santé, pour l'environnement, pour les routes, pour le transport, pour faire en sorte que tout le monde ait une qualité de vie.
Pas et pour actuellement, les petits
c'est ça. Et actuellement, c'est pas nécessairement ça qui se passe, même s'ils disent qu'il y a 75%, mais quand le gouvernement canadien prend une partie du budget de la population qui devrait être au service de la population mais qui le met au service des entreprises, ça répond pas aux besoins de la population. À partir du moment où quelqu'un est élu, il n'est plus là pour représenter les intérêts d'un groupe quelconque. Il est là pour représenter les citoyens qui l'ont placé au gouvernement. Et malheureusement, actuellement, c'est pas ce qui se passe. Et parce que c'est pas ce qui se passe, ça dégénère des difficultés entre la répartition des richesses, ça ne crée pas l'abondance pour tout le monde, oui. et cet argent-là qui ne rejoint pas les programmes en éducation, qui ne rejoint pas les programmes de santé, qui rejoint pas les programmes environnementaux, quand on regarde le gaz de schiste, c'est quoi le problème? C'est que c'est le réchauffement de la planète. Quand on regarde les bombes atomiques, quand on regarde le nombre d'avions, juste de couper le nombre d'avions militaires qui se promènent dans le ciel, on réduirait de je ne sais pas combien le taux de réchauffement de la planète, de pollution des gaz à effet de serre qui se produisent.
Oui,
ils l'ont vu en États-Unis quand il y a eu le 11 septembre, pendant les trois jours où il n'y a pas eu d'avion, la pollution a diminué.
Tu peux nous dire, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que ce gouvernement à qui on passe aujourd'hui, est-ce qu'il va changer de cap à un moment donné?
Moi, je pense qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer les gens que nous mettons au pouvoir et il faut contrôler les caisses électorales, non pas par un directeur des élections là qui est patte molle, comme je disais tout à l'heure, je ne voudrais pas me répéter, mais il faut que le fisc puisse aller dans les livres et vérifier les sommes d'argent qui ont été données par Pierre-Paul Jacques.
Non, mais est-ce qu'il y a un espoir? Oui, est-ce qu'il y a un espoir? Voulez-vous me dire un dernier mot, monsieur?
Moi, je crois qu'il y a un espoir. Il y a un espoir à partir du moment où les gens vont arrêter d'être fermés à leur perception et croire qu'il y a juste eux qui ont raison et qui vont s'ouvrir. Si on regarde dans les pays qu'on va dire de gauche ou de droite, communiste ou capitaliste, dans chacun, il y a des lacunes. Dans les pays capitalistes, c'est trop individualiste, ils pensent pas assez social. Dans les pays où c'est trop social, ils pensent pas aux libertés individuelles. Et ça, c'est la réponse étant quelque part ailleurs que dans la confrontation. Et c'est là qu'il faut arrêter. C'est pour ça que moi, j'arrivais à un moment donné avec une question qui était ouverte, c'est quelles sont les pistes de solutions qui vont nous permettre de fonder pacifiquement un pays, le Québec, le tout en accord avec la Charte des Nations Unies.
Peut-être un dernier mot encore. Est-ce qu'il y aura une invitation? Pouvez-vous faire une invitation, inviter les gens pour participer au sommet aujourd'hui?
J'invite toute la population qui est préoccupé par le devenir collectif, à s'inscrire dans le cadre du sommet, dans le but de pouvoir être capable d'échanger et de peut-être mettre des pressions supplémentaires pour influencer le gouvernement.
Donc voilà, excusez-moi, nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission. Donc j'aimerais remercier Monsieur Daniel Gingras d'avoir accepté notre invitation. Merci notre ami Roland Cazès de votre participation. Sans oublier Mario Longuet, technicien de son. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis à vendredi prochain à la même heure et au revoir.
On choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part,
D'être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
Vous rêvez de palmiers, de chaises longues? Ne cherchez plus! L'ATSA vous invite à son événement tout inclus de l'état d'urgence ultime édition. Du 25 au 28 novembre, 24 heures sur 24, sur la place Émilie-Gamelin, métro Berry, profitez de nos forfaits artistiques, dont une soirée avec les Sept Doigts de la Main et l'Orchestre d'Hommes Orchestres. Gentils auditeurs, rejoignez-nous sur www.atsa.qc.ca et sur Facebook. Du 25 au 28 novembre, nos gentils organisateurs vous attendent avec des activités gratuites dont personne ne sera exclu.
Radio Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836, 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
Retrouvez ce rythme trépidant tous les samedis de 16h à 17h au cours de l'émission Ambiance Tropicale à Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Animation, blagues, entrevues, informations artistiques et humour font également partie du menu qui vous est servi par Monsieur Ambiance. Oh oui, c'est tout un rendez-vous. Oh oui.
Radio Centre-Ville, depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.